Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Depuis plus d'un mois, la connexion Internet subit une restriction au Togo. Les consommateurs de cet outil indispensable pour l'économie du pays le disent ouvertement. Certains ont finalement recours au VPN pour mieux avoir la fluidité de la connexion Internet. Ceci interpelle les organisations de défense des consommateurs comme l'ATC, LCT et MMLK qui ont souvent dénoncé cette restriction. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Qui pour donner l'ordre pour mettre fin à cette restriction qui cause du tort à toute une population? Nous allons parler alors du sujet, puisque le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons l'aborder, nous allons parler d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin dans cette émission Club de la Presse, bien sûr, de ce vendredi 1er août 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nikro, Radio La Paix à Takpame, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Coctoisie à Dapaon. Et là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous savez que vous pouvez nous suivre aussi sur notre site internet www.canalfm.com, sans oublier nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio, aussi des analystes, comme invités dans cette émission Club de la Presse, comme analyste, bien sûr, invité à ce plateau du Club de la Presse, c'est Gabin Adjaro. Gabin, bonjour.
Bonjour Pascal, très en forme aujourd'hui. Bonne fête hein, à mes amis béninois qui aujourd'hui... Faites leur indépendance et bonne suite hein, de journée aussi. Et surtout, bon début de week-end à tous les Togolais, à tous ceux-là qui nous suivent et qui nous apportent toujours leur soutien.
Et justement, merci hein, d'avoir accepté notre invitation et merci surtout de rester constant et dans des analyses, bien sûr, très appréciées, bien sûr, des uns et des autres. C'est toujours comme cela sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. L'autre qui a aussi répondu à notre invitation, c'est bien Firmin Teko Agbo. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité.
Mais j'espère que vous allez bien.
Ouais, je vais très bien, je vais très bien. Nous sommes encore au rendez-vous. C'est notre travail quotidien. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice.
Tout à fait.
C'est notre manière aussi de contribuer au développement de notre pays. Nous sommes des collaborateurs du service public. Alors nous sommes encore à ce rendez-vous que Dieu nous inspire et qui nous permette de faire les analyses qui viennent de lui.
D'accord. C'est l'essentiel, que Dieu nous inspire, justement, fait des analyses qui viennent de lui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gafo, bonjour.
Oui, bonjour Pascal Lousseau.
Comment vous allez?
Je vais bien.
J'espère que vous allez bien.
Ça va,
alhamdoulilah. Voilà, vous êtes tous...
un bon musulman, un bon vendredi.
Un bon vendredi, bien sûr, un bon musulman. Et donc, ça fait plaisir hein, de vous avoir aussi dans cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste politique et également un observateur de la vie sociopolitique à l'heure du pays. Et vous aurez certainement votre contribution à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Elom d'Almeida, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien, comme tout le monde. Ça va mieux dans le meilleur des mondes, comme on le dit récemment. Allumé. Et je voudrais également dire mes salutations à vos auditeurs, au peuple togolais, aux sympathisants de VSV et également à notre président, le pasteur Dokomi, sans oublier un camarade Folis Ativi qui est aujourd'hui dans les mailles, qui est aujourd'hui écroué, si on peut le dire comme ça, qui est aujourd'hui en prison. Donc, mes mots d'encouragement à son endroit et à l'endroit de tous les prisonniers, en particulier les prisonniers politiques. Merci.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller régional et au-delà de cela, vous êtes analyste aussi et vous apportez toujours votre contribution aussi à ce débat. Et depuis un temps, nous vous avons associé quand même à ce débat. Et comment vous trouvez déjà l'exercice?
Non, je pense que c'est une bonne chose, étant donné que je suis un élu, certes indépendant, je ne suis pas un politicien hors pair, mais je suis un élu de la République, je représente une certaine façon de penser, un courant de pensée, à côté des journalistes qui sont des érudits en la matière, c'est bien d'apprendre d'eux également, de donner le point de vue qui est le nôtre, et notre façon de voir les choses, et notre façon d'envisager l'avenir pour un meilleur Togo.
Et tout à fait, c'est très important. Cet avenir meilleur.
Merci à vous.
Cet avenir meilleur, c'est ce que nous voulons tous ensemble pour notre pays. Et comme vous le savez, notre débat, ou du moins cette plateforme, constitue justement un instrument très important quand même pour apporter notre contribution à ce meilleur avenir. Et il est très important quand même que nous apportions à travers nos discussions, à travers tout ce que nous disons sur des sujets de l'actualité, cette contribution à notre avenir, à notre pays, le Togo, comme cela se doit. Oui, Elam?
Oui, tout à l'heure, en venant, je pense que j'ai vu des stagiaires, des stagiaires de Canal FM. Je pense que moi aussi, j'ai été, il y a très longtemps, l'un des stagiaires à Canal FM. Et à l'occasion des vacances, j'ai également fait mes premiers pas en radio. Et ici, à Canal FM, en tant que vacances utiles, comme on le fait souvent. Après, j'ai été aux côtés de James Kounaké, qui était journaliste sportif, puisque j'aime le sport.
Paix à son âme.
Paix à son âme. Merci à Canal FM, à double titre, alors.
Canal FM qui s'apprête même à fêter ses 28 ans. Vous voyez déjà que, c'est-à-dire le 5 août prochain, ce serait 28 ans pour Radio Canal FM. Il y a beaucoup d'activités qui sont programmées pour cet anniversaire. Et vous aurez certainement la quintessence alors de ces activités dans la semaine prochaine. Et là, 28 ans, ce n'est pas petit quand même.
Ce n'est pas du tout facile. 28 ans, il faut tirer un coup de chapeau à Canal FM qui est l'une des radios, l'une des toutes premières d'ailleurs à organiser des émissions interactives. Ce n'est pas du tout fameux de passer 28 ans dans le paysage médiatique togolais quand on sait que c'est très difficile déjà de s'en sortir avec les publicités qui manquent, avec comment arriver à faire en sorte que bon les employés soient rémunérés et tout ça. C'est ça veut dire que ce que vous faites ici, c'est un travail mémorable, et j'espère bien que les institutions étatiques vont encore beaucoup plus vous accompagner, vous et aussi toute la presse togolaise, parce que le travail que vous abattez, parfois même vous vous substituez aux institutions, vous faites les travaux qu'on ne vous demande même pas de faire. Donc vraiment il faut tirer un coup de chapeau à Canal FM et à toute la presse togolaise. C'est incroyable, 28 ans certains n'étaient pas encore nés quand Canal FM a commencé par travailler. Moi je me rappelle qu'en 2008, quand je venais tout fraîchement d'avoir mon bac, ça c'était ici, moi et mes camarades d'alors, on a créé un fan club pour le club de la presse. On était passé ici 2-3 fois et je vous jure que c'était une très belle expérience. Et aujourd'hui, Canal FM continue par vivre. Je vous souhaite encore des milliers d'années pour que les enfants de vos enfants, puissent aussi prendre connaissance de cette chaîne-là qui fait beaucoup pour les Togolais.
D'accord. Oui, c'est vrai que nous...
Et il y a quelque chose aussi à soulever, parce que vous faites aussi partie de l'une des meilleures radios togolaises, mais aussi l'une, bien je peux dire, la seule d'ailleurs, qui essaie de couvrir tout le territoire national, parce que si que vous ayez à Badou, un peu dans le tréfonds du Togo, au moins vous pourrez écouter Canal FM, vous pourrez avoir accès
à même aux informations. À travers le relais hein, du,
oui,
de nos radios partenaires.
Radio bien donc, sûr, c'est pas du tout facile, c'est très compliqué, mais vous arrivez quand même à faire de votre mieux. Vraiment, félicitations.
Merci beaucoup, c'est un plaisir. Oui, Firmin
Non, je pense que Canal FM fait partie des plus anciens en termes de presse privée. Donc, vous savez, au Togo, c'est difficile de tenir quand on a une presse, quand on a une radio, c'est difficile parce que les conditions, surtout économiques, ne sont pas tellement favorables.
Et surtout la conjonction, comme on le dit, la conjonction économique.
Oui, ce n'est pas favorable, mais c'est pour cela que moi je dis toujours à nos dirigeants qu'il faut mettre assez de moyens à la disposition de la presse privée parce que la presse privée fait un travail de collaborateur de service public. Parce que vous savez, à midi, par exemple, ou ce qu'ils sont en train de faire, les dirigeants, il y a des dirigeants qui seraient peut-être en train de nous suivre. Pourquoi ? C'est pour avoir des informations, c'est pour avoir des analyses. Et peut-être à 12h30, ils vont suivre le journal. À 13h, ils vont suivre encore le journal. Bon, des informations qui les aident aussi en termes d'élaboration de leur politique publique. Donc, les médias jouent un rôle important. Surtout, la presse privée joue un rôle important. Donc, ce que moi je souhaite, c'est que Canal FM se porte très bien. Et aussi que les dirigeants pensent aux médias privés, pensent en particulier à Canal FM. Parce que, vous savez, nous sommes dans une émission de grande écoute qu'on appelle Club de la Presse. Club de la Presse, ça fait plus de 10 ans. Au Togo, c'est difficile que des émissions tiennent pendant longtemps sur des chaînes. C'est difficile. Donc, aller sur plusieurs radios, il y a des émissions qui font juste un an,
et deux
ans.
Des émissions de débat politique.
Des émissions de débat, ça peut être deux ans, trois ans. Il y a des émissions qui avaient été sur TVCN, sur fréquence, mais ces émissions ont disparu aujourd'hui. Vous savez, moi, j'ai dirigé une radio, rédacteur en chef d'une radio, les radios Gamelier et autres. Vous savez, les émissions n'ont pas fait trois ans, quatre ans, cinq ans. Vous imaginez, après, vous partez, vous revenez. Donc, c'est difficile. Donc, mais Canal FM a su garder Club de la Presse. Moi, je dis bravo. Il y a eu des difficultés. Vous avez tenu. Il y a eu des situations difficiles, mais vous avez tenu. Il y a eu des situations peut-être compliquées, politiques, mais vous avez tenu. Donc, vous imaginez, c'est dans des situations comme cela, il faut qu'au niveau de l'État, qu'on arrive à ouvrir davantage l'espace public et aussi l'espace économique, que vous puissiez avoir à l'avenir assez de marge publicitaire pour pouvoir bien payer vos employés et assurer convenablement les charges.
D'accord, je pense que le message est passé. Gafou, oui, je parlais de conjonction, mais je vous avez plutôt parlé alors de conjoncture économique par rapport hein, justement au pays, enfin de notre pays, c'est-à-dire la situation économique alors du pays, mais on sait comment se défendre jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui 28 ans.
Oui, moi je peux le dire, moi j'ai connu Canal FM par le biais de Marius Sator, qui n'est plus ici aujourd'hui avec nous, paraît-il qu'il est à Pyramide FM. Mm. Il y avait une émission qu'on faisait à l'époque à partir de 22h je crois. Et on avait même un fan club à l'époque où on tenait des réunions. Donc, c'est pas ma première fois d'avoir accès au studio de Canal FM. Et le décor, c'était même pas comme ça. Aujourd'hui, ça a évolué. Donc, comme le dit le confrère, je pense bien que Canal FM a eu quand même fait beaucoup de progrès. Et surtout dans cette émission Club de la Presse qui existe aujourd'hui jusqu'à près de 10 ans. Donc, je tiens quand même à remercier tout le service de Canal FM, le directeur, et pour la tenue de ces programmes jusqu'à en ce jour.
D'accord, merci. Et
on ne peut que vous souhaiter le meilleur.
Merci beaucoup, Gafou. Oui, Elom.
Oui, bon.
Comme vous l'avez si bien dit.
Moi, je l'avais déjà dit. Donc,
vous étiez passé même par ici en tant que stagiaire. Et vous avez vu également, vous avez fait l'expérience. Et quand on prend justement la radio aujourd'hui, la radio représente quand même un média très, très, très sensible hein, et très important, j'allais dire, au niveau de la population.
Oui, puisque moi-même, j'ai fait le journalisme pendant un temps, après mes passages ici, mes débuts ici, et je n'ai pas trouvé le métier facile. Ensuite, l'espace public pour l'expression des opinions, c'est un peu corsé. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de journalistes s'auto-censurent, à raison ou à tort. Donc, on ne peut que féliciter Canal FM d'avoir tenu si longtemps dans le paysage et aussi à cette belle émission.
Merci. Mmh. Gabin, c'est vrai que sur l'Internet, nous avons aujourd'hui nous faisons même d'ailleurs le prolongement de nos émissions sur l'Internet. C'est ça aussi, c'est notre particularité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias également qui le font, c'est-à-dire sur des réseaux sociaux et autres. Vous pouvez rapidement retrouver même d'ailleurs des émissions, mais parce que nous sommes à l'heure de la numérisation ou du numérique, comme on a l'habitude de le dire. Mais ces derniers temps, c'est vrai qu'on constate qu'il y a un peu de difficulté avec l'Internet à mettre en ligne même d'ailleurs ces émissions. Et même au niveau des citoyens, au niveau des populations, on sent quand même qu'il y a de cette difficulté également pour soit communiquer sur Internet. Là, c'est en quelque sorte une restriction quand même qu'on est en train de constater aujourd'hui.
Oui, ce n'est pas une petite difficulté, hein. C'est une grande difficulté que rencontre aujourd'hui la population à rentrer hein, sur les réseaux sociaux, à arriver quand même à mettre leurs produits, parce que vous savez, l'Internet aujourd'hui, c'est devenu comme une boutique, et beaucoup de personnes passent par les réseaux sociaux et tout ça pour pouvoir vendre leurs produits, pour vendre leurs services. Il n'y a pas que hein, ceux-là qui vendent des produits matériels comme ça, mais on passe par l'Internet aussi pour vendre l'intellectualisme, l'intelligence, et surtout ce qu'on peut apporter en tant que prestataire de services. Donc restreindre l'Internet est cependant une durée aussi longue. Je me suis posé à cette question. C'est vrai, pour des questions d'urgence sécuritaire, on peut arriver à restreindre certains canaux pendant peut-être 2-3 jours, mais ne pas faire comme si le pays était en guerre, le pays était en crise, et puis si on ouvre Internet, le ciel va tomber sur le Togo. Pas du tout. Ce qui s'est passé, moi, ça me choque un peu que même l'ARCEP ne dit absolument rien par rapport à cela. Et on continue par payer. Les fournisseurs d'Internet nous envoient toujours des messages comme quoi vous allez à épuisement d'Internet, donc de venir recharger. Mais on recharge, et puis après quoi? Vous voyez un peu, moi je me dis, si d'ici la fin de ce mois, nous sommes déjà hein, au 1er août, si d'ici le 15 août, on n'a pas, on n'ouvre pas tous les réseaux sociaux, moi je vais porter plainte. Je vais porter plainte parce que
c'est votre droit.
Oui, parce que j'achète l'Internet, on ne me donne pas ça cadeau. J'achète et puis je ne peux pas faire mes services. Ça n'a pas de sens. Et les associations des consommateurs en parlent toujours, mais l'État ne dit absolument rien concernant cela, la restriction de l'Internet. C'est vrai, on va me dire qu'on a certaines personnes qui font du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est ce qu'ils peuvent dire. C'est comme à la radio où certains peuvent se permettre de dire des choses qui ne doivent pas être dites. Maintenant, ici, vous restreignez l'Internet qui permet aux gens aujourd'hui de vendre et aussi d'arriver à payer les taxes et les impôts. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aujourd'hui arrive à se déplacer pour aller dans des boutiques. Hein. C'est par le biais des livraisons. Parce que tu as trouvé un produit sur Internet, la personne veut te fournir. Souvenez-vous, la semaine passée, je voulais acheter une imprimante. Et je fais souvent les commandes sur les plateformes et autres là. Comme c'est VPN que j'utilise, mais ça m'a envoyé directement en Allemagne. Alors que ce que je veux commander, c'est en Turquie. Et ça m'a envoyé plutôt des recommandations comme si j'étais en Allemagne. J'étais obligé d'allumer un peu, éteindre un peu, allumer un peu, éteindre un peu, avant d'avoir accès à ce que je voulais acheter. Ce n'est pas du tout normal. Et ce que j'achetais avant à un coût réduit, j'ai utilisé beaucoup plus d'argent pour en acheter parce que j'avais besoin de ce matériel-là dans un délai record. Et ce n'est pas du tout normal qu'on soit dans cette situation-là où aujourd'hui, on parle toujours de numérisation. Tout est numérique aujourd'hui. Même pour demander simple casier judiciaire, c'est numérique. Pour faire une demande d'établissement de passeport, tout est devenu numérique. Comment se fait-il qu'on puisse restreindre Internet pendant tout ce temps et même tous les médias aujourd'hui, même étatique, la TVT autre là, se trouve aujourd'hui sur Internet. Donc, à un moment donné, nos gouvernants doivent prendre la mesure des choses et ne pas continuer par restreindre Internet aux Togolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un outil de travail, un outil très essentiel pour la survie même de notre économie. D'ailleurs, on a un ministère de l'économie numérique. Ce n'est pas du tout normal.
Oui, Firmin, c'est vrai qu'on connaît le contexte dans lequel même d'ailleurs la restriction de la connexion Internet est intervenue, mais et pas à pas, et les uns et les autres demandent quand même que cette connexion soit libérée.
Donc, si vous demandez aux États de faire la différence entre la liberté, la sécurité, ou de faire le choix entre la liberté et la sécurité, ils choisiront la sécurité. C'est ça, tous les États. Je pense que la situation que nous sommes en train de vivre, c'est une décision étatique face à une situation peut-être grave, pour ne pas dire gravissime. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2017-2018? Il était arrivé un moment où on avait fermé WhatsApp au Togo parce que la situation était extrêmement grave. Moi, je pense que ce sont souvent des mesures que les autorités prennent pour assurer une certaine sécurité à tous les Togolais. Parce que quand ils voient le danger venir, il faut qu'ils prennent peut-être des dispositions. Ce n'est pas une manière de le justifier, mais c'est une manière d'expliquer un peu. Il faut qu'ils prennent.
Mais au même moment, est-ce que ça ne fait pas du tort alors à
oui, c'est ça. C'est pour ça que face à certaines situations, l'État choisit la sécurité au détriment de la liberté. Parce qu'il faut que vous soyez en sécurité avant de pouvoir jouir facilement de votre liberté. Mais si on va choisir la liberté et vous allez laisser le désordre s'installer, après on va dire que ceux qui nous dirigent, ils sont incompétents, ils ne sont pas responsables, ils ont détruit le pays pour nous. C'est ce qu'on va dire. Donc ils préfèrent en réalité choisir la sécurité pour que tout le monde se porte bien pendant certains moments avant d'ouvrir encore l'espace. Regardez par exemple, moi je ne sais pas si vous êtes allé sur YouTube hier. Hier, j'ai passé tout mon temps au bureau, mais YouTube, c'est la connexion est en train de revenir au niveau de YouTube. Oh, il y a quelques jours plus tôt, c'était un peu difficile. Je ne sais pas si vous empruntez la voie au niveau de la nouvelle présidence, mais là, ils ont ouvert. Ça veut dire qu'en réalité, bon, vu ce que le contexte, ils sont en train d'ouvrir un peu, de rouvrir un peu, que ce soit l'espace virtuel ou l'espace physique. C'est-à-dire, vous pouvez facilement passer devant l'ancienne présidence. Or, la voie était bloquée entre temps. Non, moi je me dis, ils ont choisi la sécurité au détriment de la liberté. Comme les choses sont en train de se normaliser, moi je leur demanderai maintenant de voir un peu pour comment on peut encore ouvrir l'espace virtuel, l'espace internet. Sinon, en réalité, c'est ce que nous avons perdu. Pendant ce temps, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines, avec cette restriction, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de commerces qui se font en ligne aujourd'hui. Ces commerces qui sont en difficulté aujourd'hui parce que l'Internet est restreint. Donc, nos autorités revoient ce côté-là.
D'abord, c'est vrai qu'avec la restriction alors de l'Internet, il y a Fermé qui le disait tout de suite, on constate quand même que c'est des choses quand même que nous perdons en matière économique. Mais au même moment, quand on veut régler un problème, alors on en crée d'autres, c'est ça?
Oui, Pascal, il n'y a pas de raison valable, selon moi, de rester l'Internet. Aujourd'hui, tout est digital. Faire les opérations dans les banques, c'est l'Internet. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui même, les commerçants du marché ont du mal à retirer l'argent sur leur compte. Et quand tu rentres dans les banques, on te dit il y a problème de connexion. Mais on ne fait que faire les versements. Quand tu fais le versement, il faut que tu retires. Mais c'est pas normal dans un pays. Pour moi, c'est pas normal. Parce que déjà, il faut voir. Il n'y a rien qui est normal dans ce pays. Moi, je ne continue pas à le dire. Depuis le 3 mai, on n'a pas de gouvernement. C'est pas normal. On ne peut pas nous restreindre l'Internet. La liberté d'expression par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est dû à quoi? Mais il faut que les choses se passent normalement et la population fera aussi les choses normalement. On ne peut pas nous rester l'Internet, on te frappe, on te dit de ne pas pleurer, c'est pas normal. Donc l'État, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont commencé à nous ramener l'Internet. Mais je pense bien qu'ils n'ont qu'à essayer de bien régulariser les choses dans ce pays. Et il n'y aura pas de gabégie, il n'y aura pas de violence en quoi que ce soit. Je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la population n'a rien fait. Si aujourd'hui, il y a ce problème qui amène l'État à restreindre l'Internet, mais la faute est à qui? C'est à eux, hein. Donc moi je continue pas le dire. Je vais m'arrêter là pour le moment.
Alors Elom, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on prend l'Internet en général, ça devient en quelque sorte un élément très fondamental pour la population. Et on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Alors on nous dit pour ce qui concerne alors l'Internet, mais sa restriction doit causer alors du tort à cette population.
Oui, la restriction de l'Internet a causé beaucoup de tort. Nous comprenons les raisons pour lesquelles l'Internet a été restreint, mais ça devait être assez momentané. La durée a été un peu trop longue. Internet aujourd'hui intervient dans le domaine économique, comme mes collègues l'ont dit, dans le domaine de la santé. Il y a des collaborations qui se font directement entre les praticiens du Togo et d'autres pays à travers Internet. Et l'Internet intervient également dans le domaine de l'éducation. Donc, cette restriction est assez longue. Il faut obtempérer, il faut normaliser l'accès à Internet au Togo. Parce que ce qu'on appelle...
Vous comprenez quand même les raisons pour lesquelles alors cette restriction intervient, c'est ça?
Oui, du point de vue du gouvernant, c'est normal, puisqu'il y avait une situation donnée. Cette situation, elle est liée à des revendications populaires, on peut dire même spontanées, et face suite à l'arrestation de M. Amron. Mais les revendications étaient sur l'amélioration des conditions de vie et des populations. Donc il faut travailler plus sur l'amélioration de ces conditions-là. Celui qui vient de parler juste après, avant moi a essayé de d'effleurer ces sujets-là. Il faut véritablement travailler à et résoudre ces problèmes-là pour éviter qu'on connaisse ce que nous connaissons. Par exemple, au Bénin, je pense qu'il y a un bon moment, depuis 8 ans pratiquement, que le Bénin ne connaît pas de ces soubresauts, même au Ghana, parce que les dirigeants font assez pour satisfaire les populations, et les populations ont foi que ça va de mieux en mieux, qu'ils sont conduits sur un chemin donné, sur une trajectoire. Donc il vaut mieux travailler à résoudre ces problèmes-là pour éviter qu'il y ait des crises qui vont entraîner que les gouvernants restreignent l'accès à Internet. Donc nous en avons besoin qu'ils essayent de faire diligence pour nous donner
d'accord. J'aimerais pour lui, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, grâce à Dieu, merci.
Nous parlons de cette restriction que nous constatons par rapport à l'Internet. Est-ce que vous arrivez à comprendre quand même cela?
Oui, avant la restriction, permettez que je vous dise bon anniversaire pour le 28 ans.
Merci. C'est le 5 prochain, bien sûr. C'est par anticipation que vous nous souhaitez cela.
Dans moins d'une semaine.
Oui, moins d'une semaine, bien sûr.
Dire, 28 ans, c'est beaucoup. Vous êtes né avec la libéralisation de la presse au Togo, surtout en matière de radio privée. Et tous ces chemins parcourus. Félicitations pour la direction générale. C'est pas facile. Je pense que c'est un exemple dans l'univers médiatique. Qu'il y a une certaine résilience, une capacité de s'adapter, de faire un long chemin avec tout ce grand travail que vous avez bâti. Ceci dit, Internet, je crois que Firmin a dit un peu en partie, quand vous êtes dirigeant, face à certaines dérives, aujourd'hui Internet c'est comme un média, et il est même plus puissant aujourd'hui que les médias traditionnels. On a des gens plus puissants, des individus plus puissants que des médias, qui sont suivis beaucoup plus que des médias, mais voilà des gens qui diffusent l'information, qui ne connaissent aucune règle du traitement de la diffusion de l'information, qui ne commettent que des...
Parce qu'en matière d'information, il y a les spécialistes d'information.
Oui, ben non, journalistes. Tout à fait. Ils arrivent même de faire des erreurs. Alors que nous sommes formés, soit dans des écoles, soit sur l'État, comme on dit, nous connaissons les règles. Comment collecter, traiter, diffuser l'information. Vous avez tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes journaliste, vous ne pouvez même pas, rien que certaines images, vous ne pouvez pas les publier. Certains propos, vous ne pouvez pas les tenir parce que toute liberté est encadrée par la loi. Mais il y a des gens, chez eux, ils allument leur petit téléphone dans leur salon et puis bon, ils se permettent tout. Donc on voit un peu les dérives qu'il y a. Et quand vous êtes un dirigeant, vous choisissez entre la liberté et la sécurité. Vous voyez donc, dans plusieurs pays, les autorités sont soumises à ce choix-là. Vous voyez, dans les pays où il y a le terrorisme, il y a eu des coups d'État qui sont venus, ben, c'est des gars qui ferment les médias, qui ferment tout, parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre certaines choses. On peut le déplorer, c'est vrai, mais il y a ce qu'on appelle des raisons d'État. Ils ont à charge la sécurité des citoyens. C'est pas comme toi et moi qui n'avons aucune responsabilité envers les autres. Donc on se dit que c'est l'État. Et donc demain on pourra dire, mais pourquoi l'État n'a pas fait ça? Maintenant, tout le monde est conscient, à commencer par nous-mêmes les journalistes, qu'on a besoin d'Internet. Aujourd'hui le commerce Internet, il y a beaucoup qui n'ont pas les moyens de louer des boutiques et qui ont des pages et qui vivent de ça, donc ça aussi, ça crée un préjudice. Maintenant, il faut que l'État essaie de voir dans quelle mesure cette reprise peut être progressive, mais c'est un problème global. Vous avez vu même la dernière fois aux États-Unis, on a failli fermer TikTok. C'est Trump qui est venu réhabiliter parce que lui-même a beaucoup profité de TikTok quand on lui avait fermé sa page Facebook. Donc un pays comme les États-Unis ont fermé cette page à un candidat, donc à une élection. Donc c'est pour dire, dans d'autres pays, on a même banni TikTok dans certains pays en Europe. Parce que c'est un
outil. Mais est-ce que ça veut dire que TikTok est devenu dangereux?
C'est un outil très efficace pour diffuser de l'information. En même temps, certains redoutent que ce soit, comme c'est un pays produit chinois, que la Chine, à travers l'expansion de TikTok aussi, peut mieux contrôler le monde. Donc, vous savez, c'est une guerre technologique aussi qui se livre à ce niveau. Et donc, aujourd'hui, on ne peut que le déplorer, mais on comprend aisément que si vous êtes dirigeant, vous choisissez la sécurité d'abord parce que les règles ne sont pas respectées. Ce qu'on appelle les influenceurs, vous allez voir n'importe qui aujourd'hui, nous, on subit ça. Comme je le disais, vous avez des individus qui dépassent les médias. Et ils sont très nombreux. Ils sont partout. Ils sont suivis par des milliers de personnes. Et ils ne connaissent pas les règles de traitement, de diffusion de l'information. Ils pensent que tout ce qui est vrai peut se dire. Alors que ce n'est pas vrai. Maintenant, quand ce n'est pas vrai, c'est plus grave encore parce que ça passe sous le coup de la loi. Et donc, vous allez voir que dans plusieurs pays, le Bénin voisin tout dernièrement, ils ont corsé la loi sur le numérique. Et donc, je pense que nos pays aussi vont y passer par là. Et la dernière fois, en Roumanie, on a annulé une élection tout simplement parce qu'un candidat a fait campagne sur TikTok. Mais on l'a même éliminé du deuxième tour. Mmh. Il n'était même plus le candidat. Donc, ça dit quand même que c'est un outil, c'est comme un couteau. Avec le couteau, on peut faire la cuisine, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on peut poignarder aussi quelqu'un. Et donc, l'utilisation de cet outil-là doit être mesurée. Mais en même temps, il faut une pédagogie. Il y aura des lois, ça c'est certes, c'est certain, mais il faut apprendre aux citoyens les limites dans l'utilisation de cet outil-là. D'accord. Je pense que les États et la société civile dans les États doivent travailler à cela.
D'accord. Oui, on va aborder un autre sujet. On s'intéresse à ce sujet à l'heure de transhumance. On en parlait hier. Gabin, c'est vrai que depuis hier, nous avons constaté quand même avec le communiqué du ministère chargé justement de cette transhumance qui est un numéro vert, le 8424, qui est un numéro vert maintenant qui sur lequel on peut facilement appeler et pour dénoncer les incidents dans ce domaine. Il y a le journal Togo Matin qui est revenu sur le sujet, le journal qui écrit « Transhumance offrit aux populations un moyen direct et gratuit pour signaler les incidents ». Alors, on pourra dire quand même que c'est à saluer, Gabin.
C'est à saluer, mais ce n'est pas comme si ces incidents-là n'étaient pas déjà signalés au niveau des différents commissariats, au niveau des différentes gendarmeries. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Malheureusement, les agriculteurs se sont toujours sentis lésés par rapport à cette histoire-là. Moi, mon travail me permet d'aller un peu beaucoup plus dans les villages et autres. Là, j'ai toujours été interpellé par rapport à ces dossiers où parfois même des agriculteurs étaient détenus et ceux-là qui étaient des bouviers sont relaxés. Hein? Vous avez un champ de plus de 2 hectares, les bœufs viennent détruire tout ça, et puis par après, pour compensation, on vous donne 30 000 francs, on vous donne 50 000 francs. Alors que même les intrants ne coûtent pas 50 000 francs pour un champ de 2 hectares. Vous voyez un peu, et puis par après, on décide de garder ces personnes-là tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ont eu à répondre du tic au tac à ce que les bouviers leur ont fait. Vous savez que ce sont des gens qui ont la dégaine très facile. Il suffit juste que tu leur demandes ben, qu'est-ce que tu es en train de faire dans mon champ de manioc et patatras, ils sortent déjà la machette ou bien quelque chose du genre pour vous faire du mal. On se souvient de ces histoires-là déjà dans le Bas-Mono avec Pétou et autres là où même des gens se sont vus leurs mains enlevées par la machette dans cette histoire. Donc ce n'est pas une question de numéro vert ou de quoi que ce soit.
Oui, allez-y.
Ce n'est pas une question de numéro vert ou bien de quoi que ce soit. C'est une question beaucoup plus de répression manquée. Parce que il y a une question de... les populations ne se sentent pas véritablement très à l'aise par rapport à ça. Ce qui fait que quand tu vas dans Agbelouvé et autres, là, il y a des gens qui vont jusqu'à clôturer aujourd'hui leur terrain, leur champ. Vous voyez? Et ceux-là qui n'ont pas les moyens de clôturer leur champ, c'est laissé comme ça. Normalement, avant, je me rappelle très bien qu'il y a une période de transhumance. Et après cette période-là, les gens cultivent, ils font ce qu'il faut faire. Et même lors de la période de transhumance, ça permet beaucoup plus aux agriculteurs d'avoir leur champ. Parce que vous savez, quand les bœufs passent, ils brisent certains herbes et autres là, donc ça donne une certaine facilité à ces agriculteurs là quand le moment vient de défricher leur champ d'arriver à le faire aisément. Mais aujourd'hui c'est comme si toute l'année c'est une période de transhumance. À chaque moment vous allez voir, bon voilà, les bœufs passent par ici, et puis ils sélectionnent même des champs. C'est comme s'ils voient là où les gens ont cultivé, et puis ils rentrent dedans, ils mangent tout ce qu'ils veulent, ils déterrent même des germes et autres là. C'est très compliqué. Donc, ce que l'État doit faire, c'est d'arriver à réprimer cela. Si vous détruisez un champ de pratiquement 1 million et qu'on vous donne comme amende 5 millions, je suis sûr que ça va changer demain. Ça va changer. Mais si vous gardez les gens, et j'aimerais saluer quand même hein, le CB de Ngontien qui fait un travail louable à ce niveau-là. Si vous détruisez un champ, mais n'estimez pas que vous allez vous en sortir comme ça parce que vous avez un haut placé quelque chose, hein, il va vous réprimer et vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous voyez, il y a des gens quand même qui prennent connaissance de la gravité de la situation et qui agissent en connaissance de cause. Mais dans la plupart des cas, il y a des gens de ces autorités-là qui, je ne sais pas si c'est sous influence de haut placé ou bien de ceux-là qui ont des bœufs, mais qui ne disent pratiquement pas le droit, et les populations, les pauvres cultivateurs se sentent lésés par rapport à la situation.
D'accord, merci Gabin. Oui, Firmin, est-ce que finalement, c'est vrai que ce ministère, on sait que celui qui dirige alors ce ministère, c'est le général Yak Damran, que nous avons connu même d'ailleurs au ministère de la Sécurité. Et finalement, c'est la personne indiquée. Est-ce que le travail se fait?
Oui. Vous savez, lorsqu'on a créé le ministère, moi, je me suis posé beaucoup de questions. Moi, je me dis, est-ce que ça va marcher? Mais je me rends compte quotidiennement qu'il le fallait. Et c'est ce que j'appelle, vous allez m'excuser, les réalités africaines. Peut-être en Europe, vous n'aurez jamais ce ministère. Mais ça fait en réalité partie de nos réalités. Vous imaginez ça? Je comprends quotidiennement que on avait besoin de ce ministère. Le ministère de l'Agriculture seul ne pouvait pas gérer ce ministère parce que le travail à ce ministère est énorme. Il faut prendre du temps pour analyser toutes les plaintes dont Gabin vient de faire cas. Parce que le ministre de l'Agriculture, il a plusieurs choses à gérer. Mais le ministre de la Transhumance, on lui énumère tous les cas, toutes les plaintes, comment trouver des solutions. Et je pense que le ministre, le général, il a tout son temps pour ça. C'est pour ça, c'est à cela qu'il est appelé. Et moi, je trouve que c'est judicieux. Ceux-là qui ont pensé ou qui ont eu cette ingénieuse idée, moi, je les félicite. Avec ça, on voit, depuis qu'il est à la tête de ce ministère, on voit tout le travail qui se fait. Et ça, vous allez le voir à la télévision, vous allez voir des communiqués qui parlent. Ça veut dire qu'il y a du sérieux qui accompagne le travail. Et moi, je demanderais au ministre ou à tout son département de revoir toutes les plaintes qui ont été déposées depuis des années, toutes les plaintes des populations. Parce que lorsque moi je fais mes tournées pour sensibiliser sur la citoyenneté, ces questions-là me reviennent souvent. Les gens se plaignent en disant que bon, ils ont leur terre, ils font leur champ, mais il y a des gens qui viennent, il y a des animaux qui viennent détruire. Comment ils peuvent faire? Je pense qu'avec le ministre, ils vont essayer de trouver une solution. Si on peut doter ce ministère d'assez de moyens, je pense que les populations seront satisfaites.
D'abord, c'est vrai que quand on parle de transhumance, c'est toujours alors source alors de conflits dans les localités les plus reculées du pays. Et au même moment, ce que les gens déplorent, c'est que ces bœufs appartiennent toujours alors à des autorités. Et finalement, est-ce que ça ne constitue pas quand même des difficultés aussi pour le ministre alors pour faire son travail?
Oui, ça constitue des difficultés parce que il y a trop d'affinités par rapport à ce qui se passe. Parce que c'est les mêmes autorités qui ont ces bœufs-là. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai remarqué, c'est pas seulement dans les populations environnantes. Moi, j'habite à Kato. Et ce qui est déplorable, tu vois les peuls qui prennent les bœufs au Ghana, ils traversent la frontière. Ces bœufs viennent détruire les champs ici à Lomé et après, ils ramènent ces bœufs au Ghana. C'est pas normal. Ça, c'est le travail des autorités et surtout des maires élus de pouvoir veiller à cette sécurité des populations environnantes qui sont autour des frontières. Parce que moi, chaque fois, les bœufs passent devant ma maison. Ils passent, c'est pas normal. On ne peut pas vivre en ville, on ne peut pas être aussi en ville et voir à chaque fois les bœufs passer. Bon, comment ça se passe au niveau des frontières? Quand les personnes passent, je pense bien qu'il y a des étapes à suivre. Mais on laisse ces bœufs traverser les frontières venues au Ghana, se ravitailler et après ils repartent. Donc, je pense bien que le ministre
YARC, et cette ministère qui a été créée, Monsieur YARC a été veillé à la sécurité de notre population. Il a cette arme-là de pouvoir le faire à chaque fois, et on ne peut que le saluer cette initiative. Et il n'a qu'à essayer de trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir essayer de régler tous ces problèmes qui étaient à l'amont. Et aujourd'hui, on va essayer.
Et l'homme, votre avis sur le sujet?
Oui, c'est un sujet que nous connaissons très bien. Au niveau du MMLK, le mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix, dont je suis apparenté. Et le pasteur de Com a toujours été à la pointe de cette sensibilisation. Et la dernière fois qu'il y a eu un dans une localité, dans le Vaud, comme ça, je suppose, et il a eu même à échanger avec les autorités de ce ministère-là à propos de ça. Donc, le MMLK connaît bien ce sujet-là. Vous savez, la chose est quand même un sujet, pas seulement au Vaud, mais au niveau de la DAO, qui est régulé. Monsieur Gabin vient de le dire, il y a des périodes. Il y a des périodes pour que la transhumance se fasse très bien. Bon, est-ce qu'il faut aller vers de vastes espaces enclos, garder les bœufs pour les nourrir? Les autres pays aussi ont connu cet état, mais ils ont résolu ce problème là-dedans.
Mais s'il y a un ministère qui est dédié aujourd'hui à cela, ça veut dire tout simplement qu'on a cette volonté alors de régler le problème.
Bon, volonté affichée. Maintenant, les résultats, les efforts. On peut dire que les efforts sont louables et que la volonté est affichée. Maintenant, est-ce que les résultats et les actions suivent? Parce que rien que en l'espace de un an, ça fait quand même plusieurs personnes qui sont blessées et qui a eu pratiquement des violences intercommunautaires. Donc, il faut quand même prendre le taureau par les cornes et vraiment trouver des solutions idoines. Le Togo n'est pas un grand pays d'éleveurs. Okay, face au Mali qui produit des centaines de viandes. Donc, et ce sujet n'a que trop duré. On finit par se poser la question de savoir à qui appartiennent ces animaux, ces bêtes-là.
Mais est-ce que vous trouvez aussi la solution? Est-ce que c'est pas pour trouver la solution qu'il y a aujourd'hui, ce numéro vert que le ministre a mis en service?
Non, c'est à féliciter, c'est à souhaiter. Maintenant, chaque fois, on lit dans la presse qu'il y a eu des conflits, que les gens sont blessés, ça laisse à désirer. Il faut vraiment de temps en temps.
Mais ça, de temps en temps, on n'en connaît plus trop. Hein?
Bon, ok, on espère bien.
Mais voilà. Alors, on va quitter le sujet. On parle maintenant de la corruption. La corruption, c'est quand même qu'il y a une institution qui est dédiée même à cela. Je veux bien parler de la APLUSIA. La APLUSIA qui a des mécanismes alors, pour lutter contre la corruption. Mais dans cette semaine, la APLUSIA a tenu même une rencontre pour mettre à contribution surtout les enfants, notamment les élèves, alors à cette lutte contre la corruption. Le journal Le Dialogue revient bien sûr sur le sujet, le journal écrit « Togo lutte contre la corruption, les autorités misent sur l'éducation à la base ». Alors, et miser sur l'éducation à la base, pour lutter contre la corruption, il faudrait quand même que les enfants sachent que la corruption n'est pas une bonne chose.
Oui, je crois que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain, et le corrupteur ou le corrompu, ce ne sont pas des enfants, même s'il y a certains cas. On va voir des images où le petit, même à 2 ans, 3 ans, ils savent déjà corrompre les parents ou leurs amis. Mais il faut que les gens apprennent pour qu'ils deviennent des adultes plus responsables. Et je pense que APLUSIA veut prendre le mal à la racine parce qu'on a beau former. C'est une maladie qui tient dans nos pays, hein, un peu partout dans le monde, mais particulièrement dans nos pays pauvres. Et donc il faut aller éduquer déjà les enfants pour que dans quelques années, ça porte réellement des fruits. Parce que nous qui sommes ici, on va dire on lutte contre la corruption, mais quand demain vous êtes dans la circulation, vous n'avez pas porté votre casque et un policier vous arrête, c'est vous qui lui proposez 1000 francs hein, pour qu'il vous laisse partir. Mais après, on dira corruption. Donc, je crois que nous tous, on est des corrompus et des corrupteurs, peut-être qu'à partir de l'école, on peut forger de nouveaux types de citoyens qui vont grandir avec des valeurs qui pourront permettre de combattre un peu plus efficacement, parce que combattre totalement la corruption, je crois que ça reste une utopie. À part du moment où les gens ont des intérêts, les gens aiment le gain facile,
les gens aiment des facilités dans tous les domaines, ça va être très difficile. L'essentiel, c'est de réduire son ampleur et son impact, surtout sur nos économies. Donc, je crois que c'est une bonne initiative qu'il faut saluer. Il faut aussi mettre à contribution les médias. Pulsion également travaille avec les médias. Mais après, je crois qu'au-delà de l'école, même dans nos familles, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes? Quand vous avez un frère qui est nommé à un poste, vous êtes le premier à lui dire, mais on l'a mis là-bas pour qu'il profite. Vous voyez un peu. Donc, tout le monde réfléchit comme ça à égard à celui qui a un poste prétendu juteux et qui finit sa carrière pauvre. Mais ce seront les mêmes dans la famille à lui dire, mais toi, on t'a mis là, tu as eu à travailler à tel endroit. Vous allez voir, il y a des travailleurs, des gens qui veulent travailler dans des secteurs où ils se disent que l'argent circule facilement et tout ça. Ça reste une grande lutte, mais il faut le saluer. Mais j'aimerais, si vous permettez, revenir juste moins de 30 secondes sur la transhumance. Parce qu'aujourd'hui, on le disait, c'est une affaire dans plusieurs pays. Est-ce qu'il n'est pas possible de lever les bœufs dans un endroit qu'on peut cerner avec des clôtures et qu'on donne à manger à ces bœufs-là? On voit un peu dans des pays occidentaux, il y a des élevages à l'échelle industrielle, mais ce n'est pas des bœufs qui divaguent dans la nature, qui vont détruire les champs. Donc il y a plusieurs projets portés même par des personnes ici au Togo qui sont en train de fabriquer du foin, de la nourriture pour le bétail, qu'on peut sédentariser. Après, il y a le mode de vie de ces nomades éleveurs-là qui, depuis des milliers d'années, des centaines d'années, vivent comme ça. Circulent avec les bœufs et puis consomment ce qui est dans la nature, sauf que dans les forêts, il y a des champs aussi à côté et parfois les bœufs dérapent, donc c'est très compliqué. Et s'il faut et un jour arriver efficacement, il faut à mon avis une solution régionale, pas par pays, mais plusieurs pays, et pouvoir sédentariser ces éleveurs-là et leur donner le moyen de nourrir sur place leur bétail.
D'accord. Oui, Gabin, restons dans le sujet alors de la corruption. Et si la Prussia décide aujourd'hui d'aller vers les enfants pour cette lutte, c'est-à-dire leur inculquer l'éducation concernant la lutte contre alors la corruption, on pourra dire que la cible est bien choisie.
C'est très bien choisi. Parce que on traîne des tares depuis l'enfance. Et ça agit malheureusement aujourd'hui sur nous qui sommes des adultes. Et on a même normalisé certaines choses. Aujourd'hui, même dans certaines institutions, c'est comme si c'était tout à fait normal de corrompre et d'être corrompu. Aujourd'hui, quand vous allez à la prison civile de Lomé, à un moment ou bien dans des prisons civiles, il n'est nullement demandé que quand vous venez rendre visite à un proche qui est en détention, vous devez encore débourser des fonds. Mais malheureusement, dès que vous rentrez, vous donnez 200 par-ci, 100 francs par-là. Et c'est comme si c'est normal, en fait. C'est fait au vieux, au sud de tout le monde. Tu vas quelque part, on te dit, bon, c'est maintenant un prisonnier, lui qui sort. Pour t'appeler quelqu'un, tu dois lui donner de l'argent et avant qu'il n'appelle la personne. Maintenant, celui-là même qui accompagne encore le détenu, tu dois encore lui donner de l'argent et tu t'en sors pratiquement avec 1000 francs de dépenser dans une prison civile, ce qui est tout à fait anormal parce que tu t'es déplacé pour venir supporter un parent qui est en détention ou bien un ami et tu ne dois pas dépenser encore des fonds. Malheureusement, c'est ce qui est normal. Et même, il y a certaines personnes, leurs pièces de véhicules sont à jour, mais parfois, certaines forces de l'ordre, aujourd'hui, heureusement que c'est diminué, se disent que bon, c'est pas ça, on va manger. Et la plupart du temps, aujourd'hui, il y a des taximens qui se disent, bon, ce n'est plus la peine que j'aille faire mes visites techniques, que je mette à jour mon véhicule, les pièces de mon véhicule, parce que sur la route, eux-mêmes, ils disent, m'plais-moi, bon, tu as acheté la route. Ça veut dire que pour cette journée-là, tu as donné 500, tu peux tout faire.
Et tu as le feu vert.
Tu as le feu vert. Même si ton frein ne marche pas et tout, bon, il faut faire des grimaces pour passer. Et même sur la nationale numéro 1, ça se passe la plupart du temps. On prend 6 personnes dans un véhicule ou bien 7 personnes dans un véhicule qui, normalement, doit prendre 4 personnes. Donc, vous voyez un peu, c'est très compliqué. À un moment donné, je pense que la Raplicia a très bien choisi sa cible, les enfants, leur inculquer ces valeurs-là pour que les enfants se disent, ça doit même passer dans le programme scolaire. La corruption, éducation civique et morale, la corruption, pour que les enfants sachent que ce n'est pas une bonne chose. Et c'est un manque à gagner pour le trésor de l'État. D'accord. Maintenant, aussi, à un moment donné, il faut passer beaucoup plus à la répression. Il faut passer à la répression et surtout des gros poissons. Ce n'est pas juste les questions de 1000 francs, de 2000 francs de gauche à droite. Non, il y a de grands corrupteurs et de grands corrompus qui transitent hein, des millions qui sont véritablement des manques à gagner. Quand vous prenez de gros poissons comme ça, ça donne beaucoup plus d'exemples à la société. Au niveau des adultes, il ne faut plus faire des ateliers de formation. On informe les gens de ne pas voler, de ne pas détourner de l'argent. Non, il faut arrêter ça. Il faut maintenant passer à la répression. D'accord. Je pense que l'État a accordé de nouvelles attributions à la Rapplicia pour qu'elle arrive à faire
merci
son travail.
Merci beaucoup, Damien. Oui, Fémien, si aujourd'hui la cible de la Rapplicia, ce sont des enfants, est-ce que finalement ça veut dire qu'au niveau des adultes, le phénomène a tellement dépassé la Rapplicia?
Vous connaissez Michel Platini? Vous connaissez Sepp Blatter? Sepp Blatter, il a été président de la FIFA. Mais pourquoi on a sauté de la présidence de la FIFA? Parce qu'il était mouillé dans une affaire de grosse corruption. Michel Platini, qui a été président de l'UEFA, était un grand corrompu. On l'a dégommé de son poste. Or, c'était des gens qui ont eu une très bonne éducation à l'école à l'époque. Le Suisse et le Français, la France est à 60% catholique. On leur a inculqué des valeurs depuis leur bas âge. Mais vous savez, ce que je veux essayer de démontrer, c'est que on peut essayer de combattre la corruption. Mais le monde sera toujours corrompu. Du moment où ce sont les humains, vous imaginez, il y a des prêtres qui sont corrompus, il y a des pasteurs qui sont corrompus.
Mais pas autant avec assez d'ampleur.
Oui, oui, mais partout c'est comme ça. À l'international, en France, Marine Le Pen, elle est corrompue. Avec l'institution européenne, le Parlement européen, de la corruption, on en a.
Mais ça ne justifie pas quand même.
Moi, vous savez, moi, je fais l'apologie du réalisme. Je m'interdis d'être ignorant et naïf. Vous imaginez, je ne veux pas être naïf. Donc ce que la APC est en train de faire, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qu'à cela, il faut ajouter des choses. J'ai même pour les dire quelque chose au niveau de nos parents, à la maison. Vous imaginez, les enfants, oui, ces enfants-là, on va leur apprendre des valeurs. Mais rien ne prouve qu'à l'âge adulte, qu'ils pratiquent ce qu'on leur a inculqué. C'est ça, en fait. Regardez, je reviens toujours à ça. Nos réalités, la réalité africaine. L'enfant qui a été bien éduqué, il devient ministre. Il est issu d'une famille pauvre. Et puis on lui dit, toi, tu es ministre, là, tes frères sont en train de souffrir, tu ne fais rien pour aider. Il y a un projet qui vient, il défaque un peu dedans. Parce qu'il doit satisfaire ses frères. Ça, c'est son réalité. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, moi, je pense que c'est un travail global. Il faut peut-être des assises nationales pour réfléchir à tout ça. King Messan dit, je l'ai suivi dans une interview, il dit que lui, ses parents ont adoré Vaudou. Bon, je paraphrase, hein. C'est pour que ses parents ont adoré Vaudou. Mais aucun de ses parents ne lui a jamais dit, va voler X ou va tuer Y. Tu ne peux pas voler de l'autre. Et puis il a dit, tu ne peux même pas voler. Ça veut dire qu'en réalité, il faut mettre un accent aussi sur des parents, nous, parents. Comment revenir à nos valeurs? À ce qu'on nous apprend à l'école, il faut ajouter des valeurs qu'on apprend à la maison. Sinon, le monde est corrompu. Xi Jinping, il a fait emprisonner des centaines de personnes. Mais en réalité, la plupart de ceux qui soutiennent son régime sont des corrompus.
D'accord. Oui, Gafo, c'est vrai que quand on parle de la corruption, c'est partout. Mais on ne va pas justifier cela quand même par ce qui se passe ailleurs.
Moi, j'ai l'habitude de dire ceci. On peut essayer d'améliorer. Mais pas de changer. On ne peut rien changer. La corruption, elle est partout. Nous-mêmes, on en est les premiers. Quand tu rentres dans un service, ou bien des fois même à la banque, tu vois toute une queue qui attend. Les gens sont là avant toi. C'est parce que tu connais quelqu'un dans la banque, tu l'as appelé. Dans les coulisses, tu lui glisses un truc. Il te livre rapidement, tu pars. On n'a qu'à plutôt faire...
Mais est-ce que là, on ne pourra dire pas que c'est la petite corruption?
Non, mais c'est corruption. C'est la petite corruption, voilà. La corruption. On ne peut pas. C'est compliqué. Mais le travail doit plutôt se faire plus chez nous, les adultes. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, c'est un exemple. On peut prendre un ministère. Les ministères seront là. Il y a certains ministères, on alloue les budgets au ministère. Essayez de prendre le ministère, faites les investigations. S'il y a un truc, punissez les gens par la loi. Et là, si ça commence par là-bas, quand les enfants vont suivre, ils sauront qu'avec le temps, quand ils seront nommés ministres, et quand je vais corrompre les gens, quand je vais faire ci, voilà ma sentence qui est là. Aujourd'hui, les enfants sont naïfs. On nous a appris à l'école et la prévention routière. Aujourd'hui, les enfants ne savent même pas là où il faut se tenir sur la voie pour traverser la route. Des fois, les gens se mettent au milieu, là où la voiture va s'engager pour passer. Ils se mettent là-bas pour traverser. Donc, la corruption, là, il faut que ça se passe plus chez les adultes que chez les enfants.
D'accord.
Moi, pour moi, la cible n'a pas été bien choisie.
D'accord. Hélène, pour vous, est-ce que la cible a été bien choisie?
Oui, je peux dire que d'une façon ou d'une autre, la cible n'est pas mal. Mais en général, au Togo, il y a une crise morale. Et à côté de cette crise morale, il y a de l'impunité. Vous savez, Monsieur Germain...
Ça veut dire on ne punit pas?
On ne punit pas. Mais il y a plusieurs façons de punir ou bien de résoudre ce problème-là. Je vais y en venir. Par exemple, je voudrais d'abord parler du cas des policiers que Monsieur Germain a effleuré. Aujourd'hui, vous voyez les policiers surveiller les feux rouges. Moi, je suis revenu du Ghana il y a 3 semaines. Je n'ai vu aucun policier en pleine ville. Avant ça, j'avais fait 5 ans au Ghana. Je n'ai jamais eu de problème avec un policier. Je ne les vois même pas. Ok. Donc, ça veut dire que les policiers ne sont pas là, mais les gens respectent le feu rouge. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi au Togo, les policiers sont là. Ils sortent maintenant même en groupe organisé, ça veut dire au vu au sud de leur autorité, pour faire des opérations ratissage, pour éduquer les populations. C'est vrai que ça a un peu de l'impact positif. Mais quelqu'un qui s'arrête au moment où le policier fait des rafles, la même personne viole le second feu rouge. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi la voie de l'éducation...
Un problème de prise de conscience?
Prise de conscience et d'éducation. C'est pourquoi la voie de l'éducation, là, n'est pas mal choisie. Toutefois, le tigre ne crie pas sa tigritude. Vous voyez, il faut la sincérité dans le traitement des questions publiques. Au Kenya, par exemple. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas seulement m'arrêter sur le cas togolais pour dire que c'est un cas typiquement togolais. Parce que, finalement, nous complaignons dans notre situation togolaise. Au Kenya, il y a celui qu'on appelle un activiste, un professeur d'université, avocat, il s'appelle Paul Lumumba, qui a été président de ce qu'on peut appeler la rapucia du Kenya. Mais il a dit qu'au final, il s'est rendu compte que le président l'a nommé, lui a confié des charges, mais il n'est pas là pour résoudre les problèmes. Il est juste là pour faire de la figuration et utiliser son nom à lui pour juste faire de la figuration, ne pas aller au fond des dossiers. Au Togo, on a connu plusieurs dossiers qui n'ont pas connu des dénouements. Le dénouement n'est pas forcément la répression, aller emprisonner la personne. Mais il y a des alternatives. Il y a des stratégies alternatives qu'il faut utiliser pour que ceux qui ont gardé pas devant eux les biens publics les retrocèdent de façon symbolique et que on punisse ceux qui vont faire prochainement. Il faut un début, c'est-à-dire le passé, il faut savoir comment traiter le passé, leur demander de rembourser et tout et tout, et que les plus hautes autorités du pays eux-mêmes fassent des gestes symboliques. S'ils estiment que, parce qu'il y a au Togo une génération, les papas sont ministres, les enfants sont devenus ministres, si un ministre estime que son papa avait gardé des deniers, qu'il fait symboliquement le geste de le retrocéder, et que dorénavant dise, on va bien se comporter pour le futur.
D'accord, on termine cette émission avec la politique, Firmin. On sait que déjà dans la semaine, il y a, puisque nous allons en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour se prononcer un tout petit peu sur cette déclaration alors de du président Ouattara, et on a vu quand même que le président Ouattara qui veut alors se positionner encore pour un quatrième mandat, et au-delà même d'ailleurs de la Côte d'Ivoire, au niveau alors du Cameroun, le même problème se pose avec même d'ailleurs un huitième mandat pour Paul Biya. Alors finalement, est-ce que ça veut dire que en Afrique il y a un souci?
Non, vous leur reprochez quoi? Sur la base de quoi vous leur reprochez quoi? Vous entendez? Vous leur reprochez quoi? Regardez par exemple, je vais faire une bêtise intellectuelle. Vous voyez par exemple, en Grande-Bretagne, il y a un roi qui est là. Leur famille a gardé le pays à la tête du pays pendant des siècles. Et cette famille fait partie des 3 familles les plus riches du monde. Ils ont trouvé l'argent où? C'est l'argent du contribuable. Donc ils se sont accaparés. Vous leur dites quoi? Vous parlez de démocratie. En Espagne, il y a une famille royale qui est là pendant des siècles. Ils sont assis sur le pays. Mais ils sont là, donc les premiers ministres ne sont que des balais qui changent, qui nomment, revoquent n'importe comment. Et vous parlez de démocratie. En Grande-Bretagne, je continue. Le roi qui est là, on dit qu'il a un rôle symbolique. mais il est en même temps le président du Sénat. C'est lui qui contrôle en réalité le Parlement. Les gens ne le savent pas. On tombe un peu dans les facteurs de droit. Mais là, ici, en Afrique, il y a un président qui est là. Maintenant, la loi lui permet. Dans toutes les constitutions du monde, on a toujours dit, il y a toujours cette phrase. Toute constitution est modifiable. Lorsqu'il y a un côté à l'Assemblée nationale, on peut modifier. Donc, du moment où la loi permet à Ouattara de se présenter, il peut se positionner. On nous reproche quoi sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit que deux mandats c'est bon, trois mandats c'est bon, ou trois mandats c'est mauvais? Nous, c'est là où je
mais
dis.
Mais est-ce que finalement il est le seul Ivoirien quand même à le faire?
Non, du moment où il a le pouvoir et la loi lui permet de se positionner, mais s'il se positionne légalement et légitimement, où est le problème? Au niveau du Cameroun, tout d'abord, il y a un problème au niveau du Cameroun. Vous savez, le fait que le Cameroun ait adopté le bilinguisme, il y a une partie francophone et une partie anglophone. Je pense que ça constitue un problème fort. Et c'est pour ça que Paul Biya, il sait. C'est pour ça qu'il s'en est inspiré pour diviser un peu les Camerounais. Il sait que personne ne lui prendra jamais le pouvoir. Il va mourir au pouvoir. Lui, il ne fait pratiquement rien. Si vous êtes ministre, vous adressez à Paul Biya, vous laissez une note à son secrétariat général. Et si vous êtes bien avec sa femme, la lettre va parvenir sur le bureau de Paul Biya.
Nous parlons d'une république là.
Oui, on parle d'une république. C'est comme ça. Eux, ils ont trouvé que c'est la manière la plus majestueuse.
Est-ce que c'est la bonne?
Vous savez, est-ce que c'est bon par rapport aux réalités camerounaises? Vous voulez juger ça par rapport aux réalités occidentales? Moi, je voudrais qu'on juge par rapport à nos réalités. Ce qui se passe actuellement avec Patrice Talon, oui. c'est intéressant. Mais du jour au lendemain, ça va encore changer. Parce que ce sont des Africains. Je dois leur rappeler.
D'accord, merci. Oui, et quand même, comment vous appréciez quand même cette actualité au niveau de la Côte d'Ivoire, même sur le continent?
Je suis surpris de la réalité de mon ami Firmin. On est en train de parler d'une république et non d'un royaume. Le Royaume-Uni, c'est un royaume qu'on le veuille ou pas, mais celui-là qui détient la plénitude du pouvoir, c'est quand même le Premier ministre. Et il y a à chaque moment l'alternance. Parce que vous savez, l'être humain même est faillible. Arrivé à un moment donné, vous n'arriverez plus à être créatif et apporter quoi que ce soit. Déjà,
on devient inefficace.
Oui, on devient inefficace.
C'est ce que le président Patrice
Talon a dit. Et c'est quelqu'un qui gère un État pendant peut-être près de 10 ans qui dit cela. Ça veut dire qu'il a fait l'expérience qu'arrivé à un moment donné, on ne peut plus être productif. J'ai suivi près de 7 interviews du président Alassane Ouattara qui disait à chaque moment qu'il ne fera pas plus de 2 mandats. Qu'au moins qu'on le laisse aller se reposer auprès de sa famille, ainsi de suite.
Mais pour cette fois-ci,
et voilà la personne qui dit que non, il est encore en forme. Personne ne dit qu'il n'est pas en forme. Mais c'est un échec cuisant pour sa politique. Vous ne pouvez pas être un homme président d'un parti politique et pendant plus de 15 ans, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un capable de vous remplacer à la tête du pays.
Il en avait trouvé, mais finalement,
donc,
il était décédé.
Donc aujourd'hui, si Amadou Ben Coulibaly n'est plus, ça veut dire qu'il n'y a plus personne au sein du RHDP qui puisse remplacer Alassane Dramane Ouattara à la tête du pays. C'est une insulte d'ailleurs à l'endroit de la population ivoirienne que, bon voilà, sans moi, il n'y a personne qui va gérer ce pays-là. Ce n'est pas du tout normal. Il y a des gens qui ont fait mieux que lui avant. Mais il dit qu'il va... Je vous le dis aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Je touche du bois. S'il ne meurt pas au pouvoir avant la fin des 5 prochaines années, il va encore modifier la constitution pour se représenter. Parce que ce sont des gens qui ont une culture mourir au pouvoir. Ils veulent rester au pouvoir. Et c'est la même chose qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Je ne veux pas écouter que Paul Biya est manipulé. Non et non.
D'accord.
C'est ce qu'il a établi, c'est ce qu'il continue pas à faire aujourd'hui. Et là, il est en train de préparer son fils, Franck Biya, pour venir prendre la relève. Donc, à un moment donné, nous devons cesser ce genre de bêtises en Afrique. Comment les Blancs vont nous respecter? Macron était là. Ouattara, il va là-bas faire la courbette. Macron va encore partir en 2027, non? Macron va partir. Il y aura encore un nouveau petit qui va venir à la présidence française.
D'accord.
Ouattara va encore partir là-bas pour faire des courbettes.
Merci beaucoup, Gabin. Oui, Germain. Alors, finalement, il y a certains observateurs qui disent, suivant même la politique africaine, on se dit, mais est-ce que nous, les Africains, nous sommes sérieux envers nous-mêmes?
Non, je crois que l'Africain doit réfléchir par lui-même. Nous commettons l'erreur de vouloir copier les autres. Vous savez, l'un des présidents pour qui les Africains ont de l'admiration, c'est le président Poutine. Mais Poutine n'a pas fait un ou deux mandats. Mais les gens s'en foutent du nombre d'années qu'il fait au pouvoir. Les gens l'apprécient parce qu'ils estiment qu'il travaille. L'un des présidents que les gens apprécient en Afrique, c'est Paul Kagame. Il n'a pas fait 5 ans, 10 ans. Les gens s'en foutent du nom du mandat. Et les Camerounais, certains voudraient voir le vieux au pouvoir, même s'il ne gère rien, que c'est son entourage qui gère.
Tout récemment, même il y a des gens
même bien avant, bien avant.
Collecté de l'argent pour qu'il se représente.
Oui, mais ça, c'était de la comédie. Mais quelque part, je pense que certains Camerounais ont envie de le voir mourir au pouvoir, comme ça a été le cas d'Oufé Boigny en Côte d'Ivoire. Donc, il était vieux, fatigué. Mais les Ivoiriens avaient envie de le voir. C'est comme un papa, bon, on attend, le jeu, il va mourir. Et puis on va voir un peu si on peut le remplacer. Donc on a vu. Dans certains pays comme en Algérie avec Bouteflika, ça a mal tourné, c'est vrai. Parce que lui, il a eu un dernier mandat qu'il n'a jamais géré parce qu'il était malade. Il a fait une campagne, on ne l'a jamais vu. Il a été élu. Son mandat est fini, on ne l'a jamais vu, ainsi de suite.
Oui, allez,
allez. Voilà, donc c'est pour dire. Après, bon, je crois que ce qui est important, qu'est-ce que les gens font. Mais quand vous allez à Abidjan, de vous à moi, vous demandez, mais comment Ouattara arrive à mobiliser les moyens pour les investir. Moi, je me suis posé la question. Vous voyez Abidjan, vous voyez un peu petit New York quelque part. Sérieusement, Abidjan, Dakar, aujourd'hui, il n'y a pas... Donc certains Ivoiriens veulent qu'il continue. D'autres se disent, non, il n'avait pas le droit de réviser, il est vieux, il doit chercher quelqu'un et tout ça.
D'accord.
Mais après, pour moi, c'est est-ce que les élections seront... transparente.
Ce qui
me dérange peut-être en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a barré la voie à certains candidats qui peuvent peut-être le battre. Mais si ce n'était pas le cas, assurons-nous que les élections soient crédibles. Mais
merci beaucoup.
Est élu en ce dimanche,
mais merci beaucoup. Quand vous parlez même d'ailleurs de papa, je me souviens quand même alors du slogan au niveau quand Paul Biya voudrait faire même d'ailleurs son 7e mandat. Le slogan était un papa, c'est pour la vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc notre temps nous talonne. Nous allons revenir quand même pour donner la parole à Gafo et l'homme par après. Mais bien avant, nous allons aussi écouter nos auditeurs. Auditeurs qui vont s'exprimer sur le 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi nous allons leur donner la parole de s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
Du 2 au 16 août, c'est du jamais vu chez CCT Batimat. Avec les Batidays, découvrez des remises incroyables de jusqu'à 50% sur plusieurs familles de produits. Par exemple, avec votre pack WC complet, je dis bien complet, à seulement 23 500 francs. Ou encore, votre chauffe-eau 50 litres complet, vous avez bien entendu, complet à 72 000 francs seulement. Venez profiter de promos exceptionnelles sur le carrelage, la plomberie, le luminaire, la quincaillerie, etc. Du 2 au 16 août, c'est la période des bonnes affaires. Chez CCT Batimat, offrez-vous des produits de qualité à des prix exceptionnels. CCT Batimat, bienvenue chez vous. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à Haut de gamme de Canal Boutique. Costumes, 2 ou 3 pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À Haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Laudato. Contact 90 77 97 07.
Ako, amanegareme. Ah, novi wezo e.
Cho, fika do vi o yo.
Uleti o mene songwe nye siya. Nyematu fena o. Do vi gare ojo.
Ke nuka eva jore jio.
E defuna munto. O nyanye do ofe le do koko po wana ome. Kena fato song.
Oh, o do ofe me gakpomo. Ako dore vada sina fato song wa. Nuka tau.
Metso da sedik balik bekbele. Si fia be do si mekola.
me wue nu vo tso de nye wo mawo me wo de jesi wona sia le si me ke wo le wo mawo me drum wo wo nyanyanana na dogbede ha si wua maso maso fo nya wo gbo ike nye akop fe do fe fa loje esia na be wo de nye do fe le do xoxo fo wona wo me mi sro nu tso nye vo dada sia me lo mi gagle do a fe do kple se wo kure mi a fe gome popo si o ma gblo mi ngogbo o kple akop la mi a kpo ngogbe dede le nya te fe kple an kware me
Togo, prépare-toi à vivre l'inespéré. Une saison de gloire approche, une visitation divine descend sur la nation. Du 5 au 6 août 2025, à partir de 18h, l'esplanade Togo 2000 devient le lieu de rendez-vous avec la puissance de Dieu. Croisade de réveil et de miracles avec l'apôtre Yves Castaneu, un homme envoyé pour le réveil des nations, porteur de feu, de guérison, de délivrance et de miracles. Deux jours intenses de louanges, de prières, de révélations et de percées spirituelles. Viens avec ta foi, repars avec ton miracle. Esplanade Togo 2000, 5 et 6 août 2025, 18h précises. Pour plus d'informations, plus 228 93 33 22 33. Entrée libre. Viens et vois ce que Dieu a préparé pour toi. Togo, l'heure du réveil a sonné.
C'est les grandes vacances et De Gathering revient pour une 5e édition encore plus fun. Rendez-vous les 8, 9 et 10 août à l'Hôtel Le Bénin pour 3 jours de vibe africaine. Au programme, expo-vente, gastronomie, mode, art, animation et une ambiance de folie assurée par les meilleurs DJ de la capitale. Tu es entrepreneur, artisan, créateur, c'est le moment de briller. Réserve ton stand maintenant et connecte-toi à un public large, curieux et passionné. Viens découvrir l'Afrique dans toute sa grandeur, ses saveurs, ses couleurs et sa créativité. Retiens la date, c'est du 8 au 10 août 2025 à l'Hôtel Les Bénins, en face de la plage. Infoline et réservation, plus 228 93 94 15 65 ou plus 228 92 99 44 85. The Gathering, 5e édition, le meilleur événement de l'été.
Sous la supervision du révérend Mathieu Topard, l'église évangélique Nouvelle Vie
organise une grande croisade d'évangélisation sur le thème
« Le nom qui donne la vie ».
Cette grande croisade d'évangélisation se tiendra à l'EPP Central de Thierry du 7 au 10 août 2025, de 7h30 à 21h.
Qui sont les éminents orateurs?
Révérende Domenio, Ridges Topa d'Akra, Pasteur Kefas Adamazanteko d'Akra, Pasteur Haute, Pasteur Modeste Wissi de Thierry.
C'est encore possible.
Oui, Jésus-Christ sauve, guérit et délivre encore.
Venez expérimenter la puissance de la gloire de Dieu du 7 au 10 août 2025 sur le terrain de l'EPP Central de Thierry.
Un accueil chaleureux vous y attend. Pour une formation, pour une libre participation, contactez-le 91 109 106 114 ou 90 82 31 14. Que Dieu vous bénisse.
Vous aimez les plats d'antan? Vous rêvez des saveurs de votre enfance? Ou vous êtes tout simplement passionné par la cuisine africaine? Le rendez-vous est pris! Du 6 au 10 août 2025, cap sur Canal Olympia Godopé pour la 4e édition du festival La Marmite, FESMA. Un voyage culinaire inoubliable entre tradition et créativité. Foire gourmande, ateliers et concours de cuisine, table ronde, concert live, sans oublier la nuit des tables africaines. Plus de 50 000 visiteurs attendus. Et vous? FISMA, c'est aussi un carrefour d'opportunités pour les artisans, producteurs, transformateurs et distributeurs. Un véritable coup de projecteur sur le consommé local. Info 99 04 20 09 79 94 77 91. Du 6 au 10 août à Canal Olympia, Godopé. FESMA 2025, de la ferme à l'assiette.
Le Petit Bruxelles, avec son dîner blanc de blanc annuel, un événement incontournable et attendu dans toute la sous-région et de notoriété. Se déroule ce 9 août 2025 au Togo à partir de 19h. Soirée VIP incontournable, service et dîner exceptionnel. Pour ses 5 ans, Lomé verra en grand avec un live show inédit. La récompense de la reine de la soirée à vivre à tout prix. Attention, After Party Discothèque à partir de 23h. Plus d'infos, plus 228 70 50 50 50. Réservation, plus 228 70 44 33 30.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est bien sûr notre numéro WhatsApp. Vous pouvez réagir sur ce numéro 90 86 35 35. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez, Benoît?
Je vais bien, monsieur. Vous?
Ça va pas, la grâce de Dieu, allez-y.
Ok. Vous voyez, la Prussia. Je pense que après leur caravane, maintenant, c'est pour se sensibiliser les enfants. On demande au ministre de déclarer leur but avant de prendre conscience, ils refusent. Qui va leur dire? C'est pour la lutte, pour ne pas être corrompu, pour la lutte contre la corruption. On leur demande ça. Mais ils refusent. Maintenant, au lieu d'attraper des gros, les gens, par exemple, si moi je suis quelqu'un qui corrompt, ou bien je prends l'argent de l'État pour faire autre chose, on vient me prendre. Mon enfant, est-ce qu'on va lui dire enfin de ne pas voler l'argent de l'État avant? Pour la transhumance, vous savez, pourquoi fait-on la décentralisation? Pourquoi au moment où on voit le même nombre de ministres et le maire, le gouverneur, le préfet, il sert à quoi? Il faut qu'on donne le pouvoir à ces personnes de gérer les problèmes de leur secteur. C'est ça, on appelle ça la décentralisation.
D'accord.
Merci, et
merci beaucoup, Benoît, pour votre intervention 90-86-35-35. Allô?
Ah, bonjour.
Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez?
Oh, heureusement.
D'accord, allez-y.
Ouais, mais il salue tous les autres.
D'accord, merci.
Pour ce que l'un parmi vous dit que Grande-Bretagne, tout ça là. Non, là-bas, bon, heureusement que quelqu'un lui a déjà dit. Ça, c'est un royaume qui est là-bas. Ça, et tout le monde est d'accord sur ça. Mais ce n'est pas le cas pour ceux qui sont dans les républiques. Et ils disent qu'eux, ils ne vont pas quitter et ils tripatouillent les constitutions pour rester au pouvoir. Encore que, si c'est pour le bien des populations, ce serait bien. Si on le fait comme ça, mais c'est pour faire souffrir la population. Moi, je ne vois pas l'importance de le faire. Et, si même je le disais quelque part hier, c'est comment ils sont arrivés au pouvoir. Actuellement, le président Ouattara, il se dit comment il va régler le problème des 3000 morts là. Il ne peut pas partir. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Allô, Canal FM.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est
Wiyao depuis Nouépé.
Ah, monsieur Wiyao depuis Nouépé, allez-y.
Oui. J'étais parti pour les dévalades, donc je suis arrivé.
D'accord,
donc,
allez-y.
Vous avez parlé de la connexion. Ça m'a trop intéressé. Il y a d'autres qui utilisent notre connexion pour faire les achats, c'est-à-dire les ventes partout. Mais il y a d'autres qui utilisent la connexion pour régler les comptes. Donc c'est ça qui fait que l'État a réduit la connexion. Moi, je suis très d'accord pour eux. Parce que dans ta famille même là, si tu as un problème là, quelqu'un va sortir sur Internet pour t'humilier. Ça s'est passé plusieurs fois dans les familles des hommes, et je vous dis ça. Ils ont passé par l'Internet et humilié dans leur famille même les hommes. Sans compter, le gouvernement, hein. Dans ta famille même là, si quelqu'un te veut là, c'est sur Internet, il va te vilipender, il va te vendre moins cher. Or, tout ce qu'il parle, c'est des sociétés. Ça s'est passé actuellement là. Les hommes ont des plaintes même, maintenant à la justice, même pour appeler dans leur famille les hommes qui vont aller répondre à leur acte.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Yaro, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Oui, vous voyez, quand j'entends certains raisonnements que les gens peuvent faire plus de deux mandats en Afrique, or nous sommes dans une république, et je m'en vais appuyer sur qui nous renvoie au dictionnaire de lire le sens réel du mot noir et blanc. Le noir, c'est ce qui est sombre. Le blanc, c'est-à-dire, c'est la lumière, c'est la neige. Est-ce que vous voyez? Donc, je comprends pourquoi les blancs nous appellent des noirs. Tout ce que nous faisons, c'est noir. Les gens disent que il y a corruption et ils parlent de la réalité. Mais cette réalité, parce qu'on enseigne qu'il ne faut pas faire la corruption, mais comme il y a la réalité, ouais, ça n'a qu'à continuer. C'est ce qu'on veut nous faire savoir. Oui, nous sommes Africains et on a la possibilité de ne pas suivre les règles de la démocratie. Et on piétine la voix des autres. On limite les connexions. Certains disent qu'on insulte et on ment. Mais où est la liberté d'expression? Celui qui insulte, oui, il ment. Qu'est-ce qu'on fait? On le traduit à la justice. Il y a des voix pour ça.
D'accord. Merci. Oui, merci, monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Et je salue tous les autres français aussi qui sont avec vous.
Oui.
Et pour ce qui concerne la coupure d'Internet, présentement même, nous, on s'organise même pour aller porter plainte contre la CET et la CEP et l'État de voler. Et si ça porte des flux, tant pis. La CEP même, c'est quand il s'agit de privé qu'il fait pieds et mains pour passionner ces médias-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une institution de l'État que ça ne bouge pas. Franchement. De deux, je vous dis bravo pour Canal FM. Moi, entre-temps, il y a un collègue, c'était une collègue quand même, qui m'a appelé de l'Amérique, qui me dit, tu veux toi aussi, tu appelles Canal FM? Bravo, je vous dis bravo pour votre...
Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. C'est notre devoir et c'est ce travail-là que nous faisons pour nous rapprocher un peu plus à l'heure de vous. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Et il y a des réactions sur notre numéro WhatsApp, plein de corruption dans les commissariats au Togo par rapport à certains dossiers de 500 francs. Le timbre, on vous prend 1000 francs. Et par exemple, l'attestation de personnes à prévenir. C'est Badi qui nous écrit, bien sûr, cela. Bonjour Canal FM, quand on parle alors de la corruption, soyons sérieux, ce ne sont pas les 1000 francs dont vous parlez qui causent alors du tort à l'économie du pays. Ça concerne plus alors nos dirigeants qui détournent des demi-milliards et personne ne dit rien. Des enfants, des autorités qui ne travaillent pas roulent de voitures de plusieurs millions et on nous parle des histoires de 1000 francs. Le poisson pourri par par la tête pour mettre fin à la corruption. Il faut commencer à limoger, emprisonner les gens qui se seraient pris alors dans ce vilain jeu. Et là, c'est un début d'éducation pour les enfants, sinon c'est du bluff. Et c'est bien sûr un auditeur qui nous a envoyé justement ce message. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Germain, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer. Vous avez 30 secondes pour réagir.
Déjà, sur la corruption, je crois que c'est un phénomène mondial. Contrairement à ce qu'ils pensent, c'est dans tous les pays aujourd'hui. Il y a des méthodes beaucoup plus sophistiquées que les 1000 francs et 2000 qu'on donne par ici en Afrique. Vous avez dans des pays comme le Canada où, et si ben là on n'a pas le temps pour en parler, il y a une forme de corruption assez sophistiquée. Maintenant, l'auditeur qui a parlé du noir qui est noir, je suis un peu déçu. Il faut que l'Africain commence par se considérer un peu plus. Certains blancs viennent se bronzer ici pour avoir des peaux plus sombres, hein. Donc ils veulent un peu ressembler au noir. Ça ne veut pas dire que nous avons un teint maudit, au contraire. C'est un teint qu'on doit valoriser. Et l'Africain doit se prendre un peu plus au sérieux. Nous sommes capables de faire de bonnes choses et on en fait. On a vu dans plusieurs domaines, dans le sport, dans la culture, dans plusieurs domaines, nous excellons. Donc, si en politique, il y a des choses qui ne vont pas, ça n'a rien à voir avec notre couleur. Je crois qu'on doit aussi arrêter de copier forcément des modèles qui nous sont importés, qui ne sont pas forcément très adapté à nos réalités.
D'accord, merci beaucoup Germain. Le dernier message que je viens de lire, c'est pour Ibrahim qui nous écoute bien sûr et qui a écrit le message. Oui, Gabin, 30 secondes.
Non, merci de m'avoir invité. Merci aussi aux auditeurs qui ont apporté de leurs avis à notre débat. Et que Dieu bénisse le Togo.
D'accord, merci beaucoup. Fumé, 30 secondes.
Deux petites choses.
Rapidement.
On doit savoir qu'il y a des républiques. Dans ces républiques, on peut faire plus de 2 mandats. En Allemagne, on peut faire plus de 3 mandats, 4 mandats. Merkel a fait plus de 3 mandats. Elle était dans son 4e mandat avant de démissionner. Donc, en Chine, on peut faire plus de 3 mandats. Donc, vous savez, il y a plusieurs démocraties. Il n'y a pas une seule démocratie. La démocratie française est différente de la démocratie britannique.
La démocratie est au pluriel.
Oui, la démocratie est au pluriel. Mais quelle démocratie nous voulons choisir? On se dit c'est la démocratie française ou démocratie britannique. On se perd. Moi, je voudrais qu'on revienne toujours à nos réalités. Et puis, pour conclure, il y a une différence entre la politique et la démocratie.
D'accord. Merci. Gaffo.
Oui, plus de justice sociale dans notre pays et plus d'amélioration. Et il faut que nos gouvernants essaient de voir la situation qui traverse notre pays actuellement, qui les ont poussés à rester dans notre et Internet. Plus de dialogue concret. Il ne faut pas qu'ils nous plaquent cette paix-là qu'ils sont à chaque fois en train de nous présenter, qu'il y a la paix dans le pays. Or, dans l'obscurité, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Merci à vous. Oui, Hélène.
Oui, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais prendre seulement 30 secondes. Seul. Et selon Cheikh Anta Diop, l'Afrique veut dire ouverture vers l'énergie vitale. Il faut qu'on cesse d'avoir cette idée pessimiste, négative de nous-mêmes en Afrique. À une certaine époque, en Éthiopie, dans les pays de l'Afrique australe là-bas, quand on veut un enfant, on souhaite avoir l'enfant le plus noir possible. Même nous-mêmes aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui est vraiment noir, comme King Mensah à Kabaraka, on est émerveillé. Donc, il faut que nous-mêmes nous ayons cette idée lumineuse de nous-mêmes pour de notre continent, de nos façons de faire, pour aller vers le bon chemin.
D'accord.
En tout cas, j'espère que on ne va pas finir un jour au Togo. Dans 25 ans, on ne va pas trouver encore un président qui a 83 ans qui se présente comme au Cameroun ou comme en Côte d'Ivoire. J'espère bien.
On attend de voir.
On verra bien. On verra toujours à nos réalités. Pour moi, c'est la chose la plus importante.
Merci beaucoup, Elom, d'Almeida, d'être passé dans cette émission. Analyse conseiller régional et analyste aussi, merci. Merci, Germain Pouli, journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'être passé dans cette émission. Abin Diarou, merci d'être passé dans cette émission juriste et analyse politique. Merci Fimette Kouagbo, journaliste et également analyse politique. Merci d'être passé. Gafo, merci à vous d'être passé et merci pour votre contribution. Vous êtes analyste aussi et merci d'être passé dans cette émission. Vous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin alors de cette émission, merci à vous. Vous qui nous avez également appelé pour vos diverses contributions à ce débat, merci à vous pour ces contributions. Thomas était aussi d'ATV, était à la mise en onde. Jérôme Akoutsa était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou, je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et vous passez un bon week-end.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.